Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, une émission que vous entendrez peut-être comme une remise en cause du travail que nous faisons toutes les semaines dans ce créneau radiophonique, mais il est bon parfois de douter, de s'interroger. Avant de vous retrouver dans quelques semaines pour une nouvelle saison d'aventure économique, j'ai souhaité poser une question qui pourra paraître irrespectueuse aux économistes qui sont les habitués de cette émission. La question que je soulève est la suivante: à quoi servent les économistes? Leurs connaissances sont-elles fiables? Ont-ils toujours raison? Occupent-ils une juste place dans les débats contemporains? Leurs conseils doivent-ils être suivis d'actes par les gouvernements? Pas une, mais beaucoup de questions et les réponses de deux invités qui sont aujourd'hui en studio et non plus au téléphone et que je vous présente maintenant. Bonjour Aurore Laluc.
Bonjour.
Aurore Laluc, vous êtes économiste, fondatrice et co-directrice de l'Institut Veblen qui mêle économie et écologie. Vous êtes députée européenne, vous siégez au sein du groupe Socialistes et Démocrates et vous venez de publier aux éditions Les Petits Matins un livre intitulé Reconquête, sous-titre Au nom de l'intérêt général. Avec vous dans ce studio, Jésabelle Coupé-Soubéran. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Jésabelle Coupé-Soubéran, vous enseignez l'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des questions bancaires et financières. Vous êtes par ailleurs conseillère éditoriale au CEPI, co-rédactrice en chef de la lettre du CEPI. Le CEPI qui est un grand centre de recherche en économie internationale à Paris. Et vous publiez à la fin du mois d'août, en compagnie de la dessinatrice Oriane Buis, un album de bande dessinée aux éditions Casterman qui s'appelle tout simplement L'économie en BD. Je précise que vous vous connaissez bien toutes les deux, puisque vous menez des combats communs, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Enfin, des reportages dans cette émission, nous avons rendez-vous avec Gabriel Maréchaux à Kuala Lumpur en Malaisie, Lumna Anaki à New York et Viloen Munoz Boileau à Lima au Pérou. Nos auditeurs en ont peut-être une idée, puisqu'ils vous entendent parler à ce micro toutes les semaines, vous, économistes, qui représentez la globalité du métier ici, mesdames. Aurore Laluc, comment définiriez-vous le métier d'économiste? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Est-ce que c'est un métier?
Vous savez, il y a une blague qui court chez les économistes hétérodoxes pour dire qu'un économiste, finalement, c'est un mauvais historien, un mauvais mathématicien et un mauvais sociologue. Voilà, je vous dresse un petit peu le portrait de notre profession qui est en fait surcotée. Normalement, un économiste, c'est quelqu'un qui est censé faire montre de technicité pour être au service justement de l'intérêt général et des politiques. C'est censé être quelqu'un qui met, comme tous les universitaires, comme tout le monde finalement, qui met son savoir au service de... Voilà, tout simplement. Et donc pour ça, il faut qu'il ait une grande culture générale. Il faut qu'il aille puiser dans la société, voir quels sont les centres d'intérêt, savoir pourquoi finalement il fait de l'économie. Exactement comme un médecin se dit, je fais pas de la médecine pour faire de la médecine. Je fais de la médecine pour soigner les gens, pour sauver des vies. Et c'est ça un petit peu qui manque aujourd'hui dans la profession d'économiste, c'est-à-dire que les économistes se placent finalement un peu trop au-dessus de la mêlée, en assénant dans les débats publics des arguments d'autorité du type « tous les économistes disent que, tous les économistes savent que », en utilisant des déluges de chiffres, souvent très peu fondés d'ailleurs d'un point de vue scientifique, qui finalement, au lieu d'alimenter le débat public, vient souvent l'assécher et vient mettre les citoyens dans une situation très compliquée. On est comme ça, tout d'un coup, tétanisé. On dit, ah ben, j'y comprends rien à l'économie. Je sais pas qui croire. Quel économiste dois-je croire? J'y connais rien, il vaut mieux laisser ça à des spécialistes. Non, surtout pas. L'économie, c'est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux économistes, en fait. Et tout le rôle des économistes aujourd'hui, plutôt que de restreindre les termes du débat en disant non mais c'est trop compliqué pour vous hein, c'est trop compliqué, il faut laisser ça à des techniciens, ils doivent au contraire faire montre de pédagogie, alimenter le débat public exactement finalement comme les médecins l'ont fait pendant cette crise du Covid. Imaginez si à la télé ces dernières semaines les médecins, les épidémiologistes, au lieu de dire on sait pas, c'est compliqué, on va vous expliquer. Voilà, nous, ce qu'on arrive à comprendre et voilà ce qu'on peut vous dire, vous, citoyens et citoyennes qui êtes inquiets. Imaginez si vous disiez, non, écoutez, bon, tout le monde sait que c'est trop compliqué, c'est comme ça que ça se fait. Non, ça aurait été terrible pour la démocratie, ça aurait été terrible pour la confiance. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les économistes. C'est comme si tout d'un coup, on était arrivé à une espèce de stade suprême de la pensée économique, comme s'il n'y avait plus de débat possible, à un moment où l'emprise, finalement, de la pensée économique, de l'économie est si importante sur nos sociétés, il est extrêmement important d'avoir du débat constructif et intellectuellement très élevé au sein de la profession économique, et on en a justement pas assez.
Alors, Isabelle Coupet-Souberan, vous considérez-vous comme une mauvaise historienne, une mauvaise mathématicienne et une mauvaise sociologue, tout ça à la fois ?
Oui, je suis assez d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, je pense que j'ai été formée. Alors, il y a un certain temps hein, maintenant,
pas,
quand même.
Pas si longtemps.
une ouverture insuffisante à l'histoire, à l'anthropologie, à la psychologie. Enfin, l'économie est devenue, je crois, un domaine de connaissances extrêmement fermé.
Mais alors, les deux, vous nous dites ce que n'est pas l'économie, en gros, c'est-à-dire pas des historiens, pas des sociologues et pas des mathématiciens. Mais alors, qu'est-ce que c'est être économiste ? Votre travail au quotidien, c'est quoi ?
Personnellement, je ne sais pas si je suis très représentative du travail de l'économiste au quotidien. Parce que, personnellement, si vous voulez, moi, je m'intéresse aux problématiques bancaires et financières, et donc je fais de la recherche sur ces problématiques-là. Mais j'ai toujours très à cœur, en fait, de les diffuser très largement. Et d'ailleurs, après ça, ça se paye en termes de carrière, mais peu importe, ce sont des choix. Mais alors, un économiste un peu plus sérieux que moi, s'il travaille sur ces problématiques-là, eh bien, son objectif, ce sera essentiellement d'en faire des publications dans des revues internationales, très bien cotées pour avancer dans sa carrière. Moi, il me semble que le rôle d'un économiste, aujourd'hui, ce doit être plutôt, effectivement, d'aider le citoyen à comprendre le monde dans lequel il vit, et donc d'éclairer la décision citoyenne dans la mesure où tout le monde fait de l'économie sans le savoir, au fond. D'accord ? Tout le monde est amené à prendre des décisions de consommation, d'épargne, des décisions financières. Comment est-ce qu'on finance un projet ? Je veux me loger. Est-ce que je reste locataire ? Est-ce que je peux faire l'acquisition d'un logement ? Et comment je vais le financer ? Comment je gère mon épargne ? Comment je prépare ma retraite ? Quelles études pour mes enfants ? Est-ce que si mes enfants font leurs études plus longtemps, est-ce que ça réduira leur risque de chômage, etc. On est tous confrontés à ces décisions-là.
Ou à des décisions encore plus graves. Est-ce que je peux envoyer mes enfants à l'école, ou est-ce que j'ai besoin de les faire travailler
Exactement. Donc, chacun fait de l'économie sans le savoir. Et l'économiste devrait avoir à cœur, finalement, d'éclairer chaque citoyen dans les décisions économiques qu'il a à prendre. Mais l'économie, aujourd'hui, en tant que domaine de connaissance, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que l'économiste, de plus en plus, se rêve en scientifique qui a à sa disposition tout un ensemble de données. L'économie est devenue une science très porté sur l'empirique au cours du 20e siècle, au tournant 20e, 21e. C'est vraiment ça le tournant qui s'est joué dans l'économie en tant que domaine de connaissance, de larges bases de données. Et donc les économistes se sont énormément formés aux techniques quantitatives permettant de traiter ces données et, comme ils disent, de faire parler les données. Alors, bien sûr, si vous voulez, ça ouvre des champs tout à fait intéressants. Ça permet de travailler sur des relations, de se poser des questions, de tester, de démontrer, de démonter. Est-ce que, par exemple, plus de finances, c'est plus de croissance ? Est-ce que plus de finances, c'est pas aussi plus d'inégalité ? Est-ce que plus de formation, c'est moins de chômage ? Bon, on peut tester aujourd'hui toutes ces relations-là. Mais je pense que, dans le même temps...
Quand vous dites tester, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire prendre des colonnes de chiffres et les comparer ?
Oui, ça veut dire que l'économiste, aujourd'hui, a à sa disposition un certain nombre, si vous voulez, de données, de séries de données, alors sur l'emploi, sur le chômage, sur la croissance, donc des données qui sont parfois macro, d'accord, qui portent sur des pays disponibles dans le temps ou pas, avec un recul plus ou moins grand, des données plus micro, des données sectorielles, et toutes ces données permettent, eh bien, d'établir des relations, de tester des relations. Donc de ce point de vue-là, il y a des choses, si vous voulez, il y a des choses intéressantes, mais je pense que ce qu'on a dans le même temps négligé, c'est le fait que les données, elles ne parlent pas toutes seules. Les données, elles habitent des concepts. Or, la réflexion conceptuelle, elle s'est beaucoup appauvrie, en fait, en économie.
Alors, on va aller voir ailleurs ce qui s'y passe avec un exemple pris à l'étranger du rôle des économistes, celui qu'ils jouent à New York. Par exemple, aux côtés des dirigeants de cette grande ville, de la ville à la pomme, un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Lumna Anaki.
Il y a 10 jours, le maire de New York annonçait le vote du budget de la ville pour l'année à venir. 88 milliards de dollars, un budget à la baisse, car les 5 mois de pause dus à l'épidémie de coronavirus ont laissé des traces. La ville a perdu 9 milliards en revenus divers.
Ce budget a été le plus compliqué à élaborer pour mon administration. Une crise sanitaire, une crise économique, une crise d'inégalité, une crise budgétaire, le tout combiné et à très très grande échelle.
Pour les aider dans l'élaboration de ce budget, les élus new-yorkais peuvent notamment compter sur les conseils et les analyses de plusieurs équipes d'économistes. Michael Jacobs fait partie de l'agence du budget indépendant. Lui et son équipe s'occupent de fournir des données et des études cruciales pour la mairie.
On fournit des prévisions économiques et de revenus qui permettent d'être réalistes sur ce que la ville peut se permettre de faire. Par exemple, on va dire, vous sous-estimez la hausse du nombre de SDF et vous allez devoir consacrer plus de moyens à ce problème.
Des économistes qui conseillent des villes, des entreprises et même des gouvernements. Pour Georges Hugeux, ancien vice-président exécutif à la Bourse de New York, le rôle de ces experts est encore plus crucial en temps de crise.
Pour les économistes comme moi qui ont annoncé une crise bien avant le coronavirus et qui ne prévoyaient d'ailleurs pas que ce soit un virus, mais qui savaient que nous étions dans une situation précaire, le rôle des économistes maintenant, c'est d'aller au-delà du coronavirus et de se dire à quoi vont ressembler les 3 années de récession qui nous attendent au minimum.
Trouver des solutions aux problèmes économiques, mais aussi les expliquer, d'autant plus que l'économie et la politique sont souvent liées. Aujourd'hui, de nombreux économistes écrivent dans les journaux ou animent des émissions. Georges Hugeux lui-même anime un blog pour un grand quotidien français.
Ce qui est extraordinairement important, c'est d'éduquer et de faire comprendre à la population les risques qu'ils prennent. Et effectivement, les économistes peuvent expliquer de manière accessible quelles sont les forces en puissance et pourquoi cette prudence s'impose. Ce rôle est de plus en plus important parce que nous savons un peu trop souvent que le discours officiel s'éloigne de la réalité.
Un rôle auprès du grand public qui s'est intensifié ces dernières années avec la succession des crises économiques. Au New York Times, par exemple, une 20aine d'experts se partagent les pages des chroniques dédiées à l'économie.
Un reportage signé Lumna Anaki. Alors, est-ce que vous intervenez, par exemple, Jezabel Coupet-Soubéran, auprès de la ville de Paris ou de grandes structures, de grandes institutions? Est-ce que vous appliquez vos connaissances économiques à la réalité quotidienne de ce que vivent les citoyens?
Alors, pour ce qui est des citoyens, ce que je m'applique à faire, c'est à faire des publications assez grand public. Donc à travailler sur des ouvrages qui peuvent être lus par...
Comme une BD.
Comme une BD, par exemple. Ça, c'est effectivement ce qui va sortir. Et là, je m'adresse plutôt à la jeunesse, qui était un travail très très particulier, mais plus largement, moi j'aime bien, si vous voulez, quand je pars d'un travail de recherche, avoir plusieurs déclinaisons permettant de transmettre les résultats à un public assez large, de citoyens, mais aussi de parlementaires. Je suis parfois sollicitée par des parlementaires, c'est ce qui nous amène à travailler de temps en temps
avec Aurore
Laluc sur des problématiques qui nous intéressent. Et ça me semble très important, en fait, que l'économiste veille à diffuser, à faire passer ces analyses. Et moi, il me semble que la fonction cruciale de l'économiste, ça reste quand même de conseiller le prince. Et je crois que cette fonction-là s'est perdue avec l'évolution de la discipline économique au 20e, 21e, parce que, encore une fois, aujourd'hui, l'économiste a certes, je crois, à cœur de comprendre le monde, mais en se juchant parfois sur des têtes d'épingles, et il a moins à cœur de le transformer.
Aurore Laluc, dans ce reportage de Lumna Anaki, on entend Georges Hugeux, que les auditeurs de cette émission connaissent un peu, puisqu'il est déjà intervenu à 2 reprises, je crois, dire les économistes doivent avertir les gens des risques. L'économie, c'est une prévention contre le risque ?
Le problème, c'est toujours, il y a deux choses en fait. C'est déjà quels économistes ? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des économistes, mais c'est vrai qu'il y a différents économistes. Mm-hmm. Il y a les économistes mainstream, dont finalement parle Gisabelle, c'est-à-dire ceux qui sont dans toutes les grandes universités prestigieuses, qui ont souvent voix au chapitre dans les grands médias, hein, pas dans celui-ci, mais dans les grands médias, qui sont très influents. Et puis il y a d'autres économistes.
Ils ont aussi voix au chapitre ici.
Bien sûr. Oui. Et puis il y a d'autres économistes qui sont beaucoup moins connus, qui n'ont pas forcément, qui sont un peu souvent les oubliés de l'histoire, ceux par exemple qui ont été en capacité de prévoir la crise de 2008. Vous ne trouverez pas un seul économiste de Harvard, du MIT, des très grandes universités prestigieuses qu'on peut voir absolument partout, qui font la pluie et le beau temps, qui conseillent justement certains princes. Vous n'en trouverez pas un qui a été en capacité de prévoir réellement la crise de 2008. Aucun. Ils étaient tous ailleurs. Donc il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que quand il dit... C'est le rôle des économistes de dire quels sont les risques. Le problème, c'est que toute une partie des économistes sont incapables, justement, parce qu'ils ont aussi une sorte de peur du ridicule, disons-le très clairement, dans un espèce de politburo, de club de gentlemen, ce sont souvent des hommes, où on débat, mais on prend pas finalement beaucoup de risques intellectuels. Eh bien, vous n'en trouverez pas un seul qui a été en capacité d'anticiper, finalement, les crises. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est effectivement de conseiller du prince, comme l'a dit Gisabelle, mais façon Keynes, finalement. Keynes, c'était ça.
Alors, on va rappeler qui était John Maynard Keynes.
C'était un fantastique économiste, mais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement cultivé, pour le coup. Grande culture générale.
Au début du XXe siècle.
Au début du XXe siècle. Et qui a été un diplomate, qui a participé à beaucoup d'accords gouvernementaux. On pense notamment aux accords de Bretton Woods, qui ont scellé la politique monétaire, le système monétaire et financier international. Système qui a permis de ne pas avoir beaucoup de crises pendant 30 ans, finalement.
Oui. Mais si son vous voulez. Son grand œuvre, ça a été aussi de conseiller les gouvernements pendant la crise de 1929.
Oui, et surtout beaucoup, beaucoup après, mais surtout ce qui était intéressant chez Kent, c'était justement que lui, son objectif, il était politique. Et il venait servir le politique. Son objectif, c'était la paix dans le monde. Parce qu'il avait vécu la première guerre, la seconde guerre mondiale. C'était la paix. Et en fonction de ça, eh ben, il était en capacité de proposer aux politiques tout un système économique, justement, favorisant les conditions de la paix. Et pour lui, c'était quoi ? C'était la prospérité. C'est la prospérité partagée qui permet d'avoir la paix. Et en fonction de ça, il était en capacité de vous proposer un système monétaire et financier international qui permet de servir ses objectifs. Eh ben, pour moi, c'est à ça que sert un
économiste. C'est la référence absolue, Keynes, pour vous ?
Pas que Keynes, Galbraith, etc. Mais oui, typiquement, ce genre de personne qui se met au service, non pas de sa petite personne, mais de l'intérêt général et des grands défis politiques, oui, là, ce sont des références, effectivement, absolues. C'est ça, à mon avis, le rôle d'un économiste, vous voyez. On en parlait tout à l'heure, c'est quoi le rôle ? Ben, c'est ça. Et à ma modeste échelle, en tant qu'eurodéputée, quand je dois délibérer sur des textes de type régulation bancaire, régulation financière, etc., je prends conseil auprès d'économistes, justement pour avoir des propositions qui permettent d'avoir de la stabilité financière pour que la société aille bien, pour que nous puissions éviter une crise aux Européens qui se terminera par une crise sociale. Et c'est comme ça que je travaille avec Gisabelle, je travaille avec d'autres aussi, mais c'est comme ça qu'on travaille en bonne intelligence, parce que Gisabelle dit les économistes sérieux, mais elle fait partie des économistes éminemment sérieuses, justement, très grandes techniciennes, et qui sont en capacité justement d'être au service de l'intérêt général.
Mais vous êtes économiste,
oui,
à la base,
oui,
et puis vous êtes passé de l'autre côté de la barrière,
exactement,
à la politique.
Oui.
Est-ce que l'économiste ne peut avoir d'influence que comme politique ?
Non, je pense pas. Je pense que les économistes, ou du moins les pseudo-économistes, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui jouent à l'économiste alors qu'ils ne sont pas forcément économistes, ont de l'influence partout. L'économie, dans sa forme très, dans une espèce de vulgate finalement, a de l'influence partout aujourd'hui dans le débat public. Et par contre, c'est vrai que j'ai à cœur, en tant qu'économiste hétérodoxe, disons-le clairement, d'utiliser ce bagage pour à faire avancer l'économie réelle dans une forme bien différente que celle dont a été présentée ces dernières années.
C'est Écodici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des économistes avec deux économistes, Isabelle Coupet-Soubéran, maître de conférence à Paris, un Panthéon-Sorbonne, et Aurore Laluc, députée européenne. Direction le Pérou, où en 2016, Pedro Pablo Kuczynski, alias PPK, provoque la surprise. Contre toute attente, cet économiste, ex-banquier de Wall Street, est élu président du Pérou, mais vite rattrapé par les scandales de corruption qui minent l'État péruvien depuis plusieurs décennies, il n'ira pas au terme de son mandat. C'est un portrait éco d'ici, éco d'ailleurs de PPK, signé depuis Lima, Viloen Munoz Boileau.
Este hombre hizo su propio camino.
Pedro Pablo Kuczynski, le self-made man à l'américaine, c'est du moins l'image vantée dans ce spot de sa campagne présidentielle de 2016. L'Amérique, c'est là que PPK a fait carrière et fortune, ce qui lui vaut également le surnom de gringo. Il a d'ailleurs longtemps eu la double nationalité, péruvienne et américaine, mais ses origines sont européennes. Sa mère franco-suisse et son père, médecin allemand d'origine juive, se sont installés au Pérou dans les années 30, après avoir fui l'Allemagne nazie. Après une enfance dans la jungle amazonienne, où son père soignait les lépreux, le jeune Pablo est envoyé en Angleterre pour ses études, d'abord au Royal College of Music de Londres, puis à l'université d'Oxford, où il étudie la philosophie, l'économie et la politique. Il complète son cursus à Princeton, aux États-Unis, dont il sort diplômé avec un master en économie. C'est ensuite pour lui le début d'une carrière dans les hautes sphères de la finance, comme le raconte Mario Cifuentes, journaliste et auteur du livre K.O. PPK.
Il estuvo muchos años como parte de...
Il a travaillé plusieurs années pour les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale ou le FMI. Puis, il est entré dans le monde de Wall Street, avant de devenir consultant au moment de la vague de privatisation qu'il y a eu en Amérique latine dans les années 90. On l'appelait d'ailleurs le privatiseur, car de nombreux pays de la région sollicitaient ses conseils.
Les années 2000 marquent un tournant dans la vie de Kuczynski avec le début de sa carrière politique au Pérou. Nommé ministre de l'économie en 2001, puis premier ministre en 2005, PPK se lance une première fois dans la course à la présidentielle en 2011, mais sans succès. Déterminé à occuper ce poste, il retente le coup 5 ans plus tard. Il se présente alors comme le garant de la démocratie et s'engage à combattre le crime et la corruption face à sa rivale Keiko Fujimori, dont le père et ancien président Alberto Fujimori avait été condamné à 25 ans de prison pour corruption et violation des droits de l'homme. PPK promet également de relancer l'économie, ce qui implique selon lui de flexibiliser le marché du travail et de stimuler les investissements privés. Mais l'homme d'affaires est alors loin de faire l'unanimité. Arthur Morenas, coordinateur de l'Institut des Amériques à Lima, nous explique pourquoi.
Kuczynski, c'est vraiment celui qui a travaillé pendant 30 ans à l'étranger. C'est ce qui est typiquement la figure de la droite linéenne institutionnelle, l'élite blanche péruvienne, plus à l'aise dans les cercles internationaux que dans la réalité nationale. Il n'a jamais été extrêmement apprécié hors de Lima.
Flash électoral, le résultat. 50,4% pour Pedro Pablo Kuczynski.
Pourtant, le 5 juin 2016, l'économiste et ex-banquier de Wall Street provoque la surprise. Il l'emporte de justesse sur sa rivale. Plusieurs analystes politiques de l'époque y voient un vote contre le fujimorisme plutôt qu'un vote d'adhésion à Kuczynski. Élu président, PPK forme un gouvernement à son image, avec des hommes et des femmes issus du secteur privé. Un gouvernement de luxe, comme il le qualifiera lui-même. Mais en décembre 2016, soit 6 mois à peine après son investiture, le scandale Odebrecht éclate au Pérou. Cette vaste affaire de corruption implique l'ensemble des présidents péruviens, y compris PPK. Ce dernier est accusé d'avoir favorisé l'entreprise de BTP brésilienne pour des contrats signés alors qu'il était ministre de l'économie en échange de pots de vin.
Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
Acculé par les preuves et menacé de destitution, Kuczynski présente sa démission le 21 mars 2018, soit un an et demi seulement après avoir été élu président, et laisse derrière lui un bien maigre bilan, selon Arthur Morenas.
L'une des choses qu'il a fait, c'était le fait de réformer les normes pour l'investissement public en les flexibilisant, ce qui après, du coup, a été, une fois qu'on a su la question de Brecht, lui a un peu retombé dessus, parce qu'on a dit, bah, voilà, regardez, lui, en fait, il travaille pour qu'il n'y ait pas de contrôle sur les investissements, mais il n'y a pas de grandes réformes qui ont été faites pendant ces années.
Arrêté en avril 2019 pour corruption, Kuczynski est d'abord placé en détention provisoire, puis assigné à résidence chez lui à Lima.
À 81 ans, fidèle à son image de gringo, celui qui a renoncé à la nationalité américaine pour se présenter à l'élection présidentielle rédige actuellement ses mémoires en anglais.
Un reportage signé Wilhelm Munoz-Boileau. Quelle trajectoire, Aurore Lannic.
Oui, quelle trajectoire, effectivement. Mais il est très bien fait, ce reportage. Et il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'on voit qu'il vient des États-Unis, c'est un homme d'affaires, il a fait de l'économie. Donc forcément, ça impressionne. Ça impressionne, c'est sérieux. Il vient du privé, c'est sérieux. On voit bien tout.
Il est passé par la Banque mondiale,
le FMI. Par la Banque mondiale, le FMI. C'est forcément quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà. Et là, on est vraiment, je trouve d'ailleurs ces dernières années, quelque part, je serais tentée de dire, dans une forme de populisme, en fait. C'est-à-dire qu'on tend à faire peur aux gens avec certaines données économiques, la dette, etc. C'est mal, l'inflation, attention, etc. Ce qui provoque une sorte, oui, qui fiche, qui peur, et on se dit que les gens qui viennent du secteur privé, qui viennent de l'économie, doivent mieux savoir, finalement, que le citoyen. Et c'est exactement ça qui s'est passé ici. Alors que, comment dire, ces dernières années, on était dans quelque chose du type, la dette, il y en a trop, il faut la réduire. Les fonctionnaires, il y en a trop, il faut en diminuer le nombre. Le secteur privé, c'est forcément plus efficace que le secteur public. Ben non, ça dépend pourquoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé au degré zéro du débat, et ça donne finalement, typiquement, l'arrivée au pouvoir de ce type de personnage, je trouve, qui impressionne par son parcours et qui fait croire que tout ce qui vient du privé est forcément mieux de ce qui vient du public. Bah non, pas forcément. Et de toute façon, les deux vont ensemble, d'ailleurs. Il n'y a pas de secteur privé sans secteur public. Sans État fort, il n'y a pas de marché. Ça n'existe pas. Il faut des normes, il faut des règles, des institutions pour que tout ça fonctionne. Donc, il est temps de remettre un peu de richesse dans ce débat très appauvri qui a des conséquences sur la politique, on le voit.
Isabelle Coupet-Souberan, ça ne vous tente pas ce genre de parcours, aller travailler à la Banque mondiale? Il y a beaucoup d'économistes français ou autres qui sont à la Banque mondiale, au FMI, qui sont des experts de tel ou tel pays, qui conseillent les gouvernements, puis revenir en France, passer dans le privé, ça ne vous intéresse pas?
Alors pour finir comme PPK,
pas forcément.
Je pense qu'il y a, si vous voulez, des économistes qui font un travail formidable dans ces institutions comme la Banque mondiale ou le FMI, qui ont beaucoup évolué. Ce sont des institutions qui ont fait du mal, je crois, au cours des dernières décennies, lorsque elles se sont enfermées dans un discours qui consistait à imposer aux pays en développement des réformes structurelles qui étaient pensées simplement en calquant les choses sur les pays avancés. Donc ce sont des institutions qui ont fait du mal à un certain moment, je crois, on peut le dire, mais qui ont réussi, me semble-t-il, à évoluer. La Banque mondiale, aujourd'hui, est, par exemple, très en pointe sur les problèmes d'inégalité, sur les problèmes de genre, aussi. Le FMI est très en pointe sur les problèmes d'instabilité financière. Donc, ce sont des institutions qui réalisent des travaux tout à fait stimulants. Personnellement, j'ai pas été amenée à y travailler directement. Cela étant, je suis très fière quand des doctorants que je forme peuvent y trouver ensuite un débouché, et ça a été le cas. Sinon, pour revenir un peu sur votre reportage, ce qui est intéressant finalement dans la trajectoire de PPK, c'est que il est complètement rattrapé par la corruption qu'il dénonçait et qui, d'une certaine manière, démontre un peu l'intérêt aussi de ce sur quoi il travaillait auparavant, c'est-à-dire l'intérêt de prendre en considération l'environnement institutionnel.
Tout à l'heure, au début de l'émission, vous disiez les économistes, je crois que c'est Aurore Lannic, manque de culture, mauvais mathématicien, mauvais historien, mauvais sociologue. Mais lui, c'est le contre-exemple, puisqu'il a été formé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qu'il a des origines européennes. Il est le fruit de multiples racines à la fois culturelles et puis de formations très approfondies, de grande qualité. Quand on est passé par Princeton et Oxford, on a une formation philosophique générale très importante.
Alors, peut-être un petit peu plus pluridisciplinaire, effectivement, que chez nous, et surtout une figure très très internationale, mais avec un logiciel d'analyse extrêmement néolibéral. Donc, pas sûr, si vous voulez, qu'il ait eu véritablement cette ouverture d'esprit que vous semblez lui prêter.
Aurore Laluc, vous avez employé deux fois dans l'émission, en parlant de vous, « je suis une économiste hétérodoxe ». Ça veut dire quoi?
C'est pas simple à définir. En gros, on est aujourd'hui dans une situation où il y a un espèce de faux débat entre, je dirais, les néo-keynésiens, les néo-classiques, entre bonnet blanc et blanc bonnet, c'est-à-dire des gens qui pensent finalement à peu près à la même chose, la toute-puissance du marché qui a ses défaillances, et puis quand il a des défaillances sociales, c'est à corriger, quand il y a une instabilité financière, c'est à corriger, quand il y a un problème environnemental, il suffit d'internaliser les externalités, c'est-à-dire finalement de donner un prix à la nature et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est finalement parce qu'il n'y a pas assez de marché. Il faut donner les conditions d'émergence d'un prix et d'un marché. Les hétérodoxes, eh ben, c'est des gens qui pensent différemment. Alors, il y a dedans des économistes écologiques, des post-keynésiens. Il y a même les ultra-libéraux, finalement, parce que les ultra-libéraux ne se retrouvent pas du tout dans cette espèce de gloubi-gouba, je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais de pseudo-pensée. Donc, même les ultra-libéraux, qui ont une pensée très riche, parce qu'une pensée philosophique de méfiance envers l'État, ne se retrouvent pas non plus là-dedans. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérodoxie. Et on parle, justement, on critique beaucoup les économistes, mais à l'intérieur de l'hétérodoxie, il y a des penseurs absolument incroyable. William Capp, dès les années 50, qui produit finalement quasiment un rapport du GIEC en nous expliquant, oulala, on pollue beaucoup trop, qu'est-ce que ça va donner le cocktail chimique dans l'air de molécules qu'on ne connaît pas. Incroyable d'écrire ça dans les années 50. Ben, ça vient de l'économie. L'instabilité, c'est en phase de stabilité financière que se créent les crises. Minsky, qu'on cite, qu'on ressort à chaque crise. Incroyablement riche post-keynésien. L'économie écologique qui nous dit qu'il y a des limites à la biosphère et qu'il va falloir repenser notre système en fonction de tout ça c'est dans l'hétérodoxie. Et c'est finalement tous ces penseurs-là qu'on n'entend pas malheureusement assez. Et c'est, je serais tentée de dire que c'est eux qui font l'économie réellement parce qu'en plus ils assument leur position. Même les ultra-libéraux, je ne partage pas les positions des ultra-libéraux, mais au moins ils assument le fait que oui, eux ils sont ultra-libéraux. Eux, leur principal objectif, c'est que l'État ne prenne pas trop de place parce qu'ils s'en méfient. Peu importe le résultat sur les inégalités, les égalités. Au moins, ce sont des gens qui marchent à visage découvert. Là, le problème, c'est que avec la pensée orthodoxe mainstream, on fait de la politique sans le dire. Et je trouve ça très grave, finalement, pour le débat démocratique. C'est ça qui me gêne, si vous voulez. C'est que on a le droit, finalement, d'avoir peu de considération pour l'environnement, pour la pauvreté, les inégalités, etc. Faut le dire, faut l'assumer, en fait. C'est très dur à assumer, mais faut le dire à un moment. Et là, souvent, derrière beaucoup de technicité ou de pseudo-technicité, on masque en fait des enjeux profondément politiques. Et je trouve ça vraiment terrible pour la démocratie. En fait.
Idéologique ?
Idéologique, tout à fait, tout à fait. Quand on dit par exemple, on peut pas annuler la dette, c'est un sujet qui nous anime en ce moment, on peut pas annuler la dette au niveau de la Banque Centrale Européenne, si on le peut. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais factuellement, c'est techniquement tout à fait possible. Le problème, c'est qu'il faut refaire de l'économie réelle, réellement, et dire après si politiquement on est d'accord ou pas d'accord. On a le droit, mais il faut absolument assumer ce choix. Et ces dernières années, on nous a fait croire tout un tas de choses entièrement fausses pour masquer, en fait, oui, des considérations très idéologiques, très, très politiques. L'inflation, c'est mal. Ben non, l'inflation, c'est pas forcément mal.
L'inflation, ça réduit quand même le pouvoir d'achat des populations.
Mais la déflation, finalement, le fait bien plus, notamment quand elle touche les salaires. Ce qui est très difficile à gérer en économie, c'est toujours la déflation. L'inflation, on s'est retiré de l'argent du circuit. Déflation, Gisabelle pourra le dire bien mieux que moi, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Bah ça, par exemple, on n'en parle pas, finalement. Ça commence à revenir. Ça revient à chaque fois en cas de crise, d'ailleurs. C'est toujours dans les moments de crise que tout d'un coup, on peut avoir à nouveau des débats riches en économie.
Gisabelle Coupé-Soubéran.
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Aurore vient de dire. C'est-à-dire que les économistes... C'est pas forcément une bonne chose de dire les économistes, comme on le rappelle tout à l'heure, mais la plupart, quand même, hein, récusent assez facilement la dimension politique de leurs analyses. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous discutez avec un économiste, il va plutôt vous dire que voilà, il fait un travail empirique de traitement des données, en toute objectivité, en toute neutralité, et il s'imagine que son objet n'est pas politique. Alors que fondamentalement, l'économie, c'est politique. C'est-à-dire que on va livrer des analyses qui ont nécessairement une dimension politique. Et ça, je crois qu'il faudrait l'assumer davantage. Et il me semble qu'il n'y a finalement pas plus parti pris et pas plus politique qu'un économiste qui considère être neutre. Parce qu'en fait, ça signifie qu'il n'a pas du tout conscience des intérêts qu'il sert.
Que pensez-vous de ces quelques lignes extraites du dernier livre des prix Nobel d'économie, Esther Duflo et Abhijit Banerjee ? Ils écrivent au début de leur ouvrage intitulé « Économie utile pour des temps difficiles », c'est publié au Seuil, que la meilleure science économique est souvent celle qui fait le moins de bruit. Ils ajoutent « Le monde est si incertain et si compliqué que ce que les économistes ont de plus précieux à partager, ce ne sont pas leurs conclusions, mais le chemin qu'ils empruntent pour y parvenir. » Vous en pensez quoi ?
Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. À la fois d'accord parce que le travail du chercheur en économie, effectivement, un travail qui s'inscrit dans le temps long et dans la patience. Et il faut s'isoler un peu, travailler en équipe, mais s'isoler un peu. Et c'est pas toujours compatible avec des participations à des émissions, etc., qui prennent du temps et qui coupent ce temps. Donc oui, le travail de l'économie, c'est un travail aussi parfois un peu dans l'ombre, un peu dans le temps long, mais dans le même temps, comme on le disait tout à l'heure, il faut absolument que l'économiste prenne davantage conscience de la nature profondément humaine et sociale de son objet, de son domaine, et donc se rapproche du citoyen, se rapproche du politique, arrive à l'éclairer par ses analyses. Et si le chercheur reste dans sa tour d'ivoire, même avec sa petite équipe de recherche, et s'il n'a jamais à cœur de diffuser son travail, je crois qu'il passe à côté de la nature profonde de sa mission.
Vous disiez tout à l'heure, en passant très vite dessus, que ce travail de diffusion de l'économie, de vos travaux, de vos connaissances, vous coûtait en termes de carrière.
Oui, parce que c'est pas quelque chose qu'on encourage du tout, hein, dans un économiste qui veut faire carrière. Encore une fois, il doit surtout se préoccuper de ses publications
scientifiques,
dans des revues extrêmement exigeantes. Et ça prend un temps fou. C'est très très exigeant d'arriver à publier dans une revue académique internationale. Alors, se préoccuper de ses enseignements, ce serait très important, mais ça, bon, on lui demande de faire un service d'enseignement, mais c'est pas vraiment, si vous voulez, ce qui va compter dans la carrière. Les implications administratives pour faire tourner l'université, c'est pas non plus ce qu'on attend de lui. Faire des livres, alors ça redevient un petit peu à la mode, hein, quand même, depuis le best-seller de Thomas Piketty. Tout le monde est très content de sortir un livre et puis d'essayer de le diffuser un peu. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau, au fond, parce que auparavant, enfin, la légitimité des économistes ne passait pas du tout par de la publication d'ouvrages, ou même d'ailleurs par de la publication de rapports s'adressant à des parlementaires, à des politiques. Lorsqu'on faisait ça, on était, bon, on passait un peu pour des charlots, si vous voulez, un peu pour des économistes de seconde zone. Moi, ça me semble tout à fait fondamental à cette fonction d'éclairage et de vulgarisation au sens noble du terme. Dans ma chronique mensuelle
pour Le Monde, j'avais
fait une chronique sur justement la vulgarisation, en disant la vulgarisation n'est pas vulgaire. D'accord. Pour revenir un peu sur ce point.
Oui.
C'est ce qui est le plus dur, la vulgarisation, en fait, contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs. C'est très simple, en fait, de se cacher derrière des chiffres compliqués, derrière des équations, derrière des mots compliqués en isme. Ça impressionne toujours. C'est très difficile d'expliquer simplement. Et c'est quand on explique de manière non simpliste, mais simplement, c'est là où on fait la chose, à mon sens, la plus difficile qu'il soit. Et Isabelle a entièrement raison quand elle dit aussi qu'il y a un souci, qui est que finalement, la transmission, l'enseignement n'est pas valorisé en économie, alors que c'est essentiel. C'est absolument essentiel d'avoir des bons professeurs qui vous transmettent du savoir. Et là aussi, la discipline économique est bien trop feignante. Vous savez, en économie, par exemple, on ne lit pas les textes de référence quasiment. Si vous demandez à un économiste qu'est-ce que c'est la main invisible d'Adam Smith, il va vous dire à coup sûr le marché. Oui, sauf que quand on lit Adam Smith, c'est pas le marché. Et ça ne l'a jamais été. Voilà. Et ça, si vous n'avez pas de bons professeurs, comme moi, Jean Delmotte, j'ai eu, ou Isabelle Coupé-Souveyran, que j'ai eu un professeur qui vous guide, qui vous transmette de l'information, vous ne pouvez pas prétendre à un moment être un bon économiste. Donc oui, il y a des gros sujets au sein de la discipline. Quant à la citation d'Esther Duflo, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gisabelle également. Je dirais qu'elle ne fait pas montre d'une discrétion absolue non plus, en plus. Donc c'est assez marrant. Ce qui est, à mon avis, essentiel, et je pense, c'est un truc tout bête, moi, que Philippe Frémaux, mon ancien patron, m'avait appris, c'est de penser contre soi. Voilà. Quand dans n'importe quel métier, en fait, mais notamment dans le métier d'économiste, je crois qu'on doit en permanence essayer de penser contre soi, et c'est comme ça qu'on avance, et en doutant et en pensant contre soi.
Nous parlons pour le moment des pays où les économistes jouent un rôle important, ou en tout cas aux yeux de l'opinion publique, des citoyens. Mais il y a des pays où ça n'est pas le cas. Dans de nombreux pays, quand on feuillette un journal, la page business tient lieu de page économie. En Malaisie, en mars dernier, c'est ainsi le patron de la plus grande banque qui a été nommé au ministère des Finances pour sauver le pays du chômage et de la récession provoquée par le coronavirus. La figure du self-made man couronné de succès a plus que jamais bonne presse à Kuala Lumpur et devient elle aussi une manne financière. Écoutez ce reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Gabriel Maréchaux, à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie.
Among the most successful Asians, self-made industrialist Robert Kwok, the Malaysian billionaire, is a living legend.
À 96 ans, Robert Kwok est le roi de l'huile de palme, de la canne à sucre, de l'hôtellerie, mais aussi des librairies, constate Lucian, libraire de Kuala Lumpur.
One of the most best-selling books.
Un des livres qui se vend le mieux, c'est la biographie de Robert Kwok, l'homme le plus riche de Malaisie.
The richest man in Malaysia.
How come? Why do you think? Et pourquoi, d'après vous, les gens veulent lire sa vie?
Because he's rich.
Ben parce qu'il est riche. Vous savez, avant, quand on parlait des grands hommes, on pensait à des scientifiques, des écrivains, ou bien, je ne sais pas, moi, Gandhi, par exemple. Et dans la décennie actuelle, quand on demande à la jeune génération qui les inspire, ils vont répondre Bill Gates.
Sur les rayons des librairies, le succès fait donc vendre la théorie moins, constate Lucian.
J'ai essayé de mettre en avant les livres d'économistes, avec notamment des idées plus à gauche ou marxistes, mais le public n'est pas intéressé par la théorie, parce que la théorie ne les mènera nulle part. Ne les rendra pas plus riches.
Pour devenir riche, certains vont donc en librairie, d'autres contactent Marissa Ng.
Hey gang, this is Marissa Ng and welcome to the Marissa Ng official channel for business owners and leaders that want to be able to grow their business.
Coach en affaires depuis 2008.
Il y a 10-12 ans, je démarchais les clients potentiels, j'allais dans les boutiques pour ça. Maintenant, les gens nous appellent et on est un peu les médecins du business. Ils nous appellent et ils nous racontent leurs problèmes. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'arrive pas à augmenter mes ventes. Je ne génère pas assez de profits. Je n'arrive pas à manager mon équipe. Mon équipe n'est pas motivée.
Et face à un coach, c'est toujours de la pratique qu'il recherche.
La plupart de mes clients sont allés à l'université, donc beaucoup me disent: j'ai étudié la finance ou j'ai un diplôme de comptable, et puis quand je regarde leurs livres de compte qui sont mal tenus, je leur dis: mais je croyais que tu étais comptable. Et ils me répondent: oui, j'ai appris la théorie, mais là, pour ma propre affaire, je ne sais pas quoi faire.
Si Marissa leur donne alors des conseils de microéconomie, elle s'intéresse aussi à leur mode de vie en pensant souvent à son père.
Mon père a été longtemps mon modèle. Il était un homme d'affaires vraiment couronné de succès, mais en 2011, il est mort d'une cirrhose, une maladie causée par le stress et l'alcool. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que mon père était vraiment un homme d'affaires asiatique typique. Il croyait qu'il fallait travailler très dur, sans se laisser distraire, bosser le week-end s'il le faut. Et il croyait aussi qu'il était important de passer du temps avec des clients le soir, en prenant des verres, car c'est comme ça qu'on fait des affaires. Et quand il est mort en 2011, ça a été un grand choc pour moi. Et j'ai changé d'avis sur son comportement, car cette façon de faire des affaires lui a coûté la vie.
Lors de ses séances de diagnostic, qu'elle facture $250, elle porte ainsi souvent son état d'esprit sur son t-shirt où l'on lit un bon business pour une belle vie.
Because remember this, guys. Have a great business and have a great life.
Un reportage signé Gabriel Maréchaux, Gisabelle Coupet-Souveran. Le business, c'est la base de l'économie.
Ça en fait partie, mais l'économie, évidemment, si
les économistes s'y retrouvent.
Bon, là, pour faire écho un peu à ce reportage, on peut évidemment pas, si vous voulez, reprocher aux pauvres de fantasmer sur la richesse. Hein. Donc, faut aussi relativiser, recontextualiser un peu ce genre de reportage. Après, plus fondamentalement, ça pose la question de savoir ce qu'est la richesse. Et peut-être que il y a des économistes qui s'interrogent sur ça. Je pense notamment à Angus Deaton, prix Nobel d'économie 2015.
Ouais, qui travaille beaucoup sur les questions de santé aux États-Unis.
Exactement, sur les questions de santé, sur les questions de prospérité. Est-ce que être plus riche rend plus heureux? Est-ce que la croissance du revenu ça permet d'améliorer les conditions de santé, les conditions de vie? Sa réponse, c'est jusqu'à un certain seuil, oui, mais au-delà
non. L'argent ne fait pas le bonheur.
Ça y contribue, bien sûr, et sans doute que, si vous voulez, dans des pays en développement, il en faut davantage pour arriver à ce seuil. Donc ils sont dans ce questionnement là. Après, ce qui est dommage, c'est que l'expérience de nos excès dans les pays avancés, ces excès d'accumulation où finalement l'argent va à l'argent et où nos économies se sont ultra financiarisées et avec des inégalités qui gangrènent nos économies, ces expériences-là sont pas transmissibles. C'est ça qui est dommage. C'est ça aussi qui sans doute fera fondamentalement obstacle à la transition écologique. C'est-à-dire que les excès des pays avancés, en tout cas l'expérience de cela ne se transmet pas à des pays en développement, et ça c'est assez triste.
Aurore Laluc, vous partagez ce constat pessimiste? Est-ce que la politique que vous êtes a plus d'impact que l'économiste qu'est Jezabel Coupet-Soubéran? Est-ce que le travail de pédagogie auquel s'astreint Jezabel Coupet-Soubéran, de vulgarisation, de publication de livres, de chroniques dans les journaux, d'intervention dans des radios, a plus d'impact que le travail que vous faites, vous, au sein du Parlement européen? Ou est-ce que les choses avancent à votre goût aussi lentement?
Chacun a son rôle, finalement. Si l'idée est de reconquérir, justement, une certaine forme je serais tentée de dire d'honnêteté un petit peu intellectuelle et de sérieux, je pense que chacun est dans son rôle, en fait, là où il est. Il va falloir avancer dans la bataille culturelle, en fait. Nous, politiques, on a aussi besoin que la bataille culturelle avance. Alors, on y participe, évidemment, mais on a aussi besoin d'intellectuels qui fassent respirer la démocratie, qui viennent l'alimenter de leurs doutes, de leurs propositions, de
leurs solutions. Les économistes, ce sont les nouveaux intellectuels?
Non. Non, les économistes ne sont pas des intellectuels.
Non, et puis de moins en moins.
Et de moins en moins. C'est-à-dire, on a des économistes de plus en plus pauvres intellectuellement. Et je me mets dedans, y a pas de sujet à ce niveau-là. Ouais. Mais on a des économistes de plus en plus pauvres intellectuellement parce que la discipline s'assèche. L'histoire de la pensée économique n'est quasiment plus enseignée. Elle est enseignée dans 0,010% des universités. Les faits économiques ne sont plus enseignés. Donc imaginez qu'il n'y a même pas d'interdisciplinarité. Donc non. On est au contraire, c'est terrible parce que au moment où la figure de l'économiste ou des éditorialistes qui jouent à l'économiste est de plus en plus importante, on n'a jamais eu une discipline, du moins dans son côté dominant, ça je tiens à la, aussi pauvre, voilà. Et en même temps, paradoxalement, on est dans une situation où, à mon avis, l'idéologie néolibérale est morte. C'est-à-dire que je pense qu'elle est vraiment tenue en vie. Plus personne n'y croit. Elle est, je pense, vraiment tenue en vie par certains politiques et par certains, oui, économistes qui n'ont pas envie de la laisser partir. Mais je pense qu'elle est, fondamentalement morte. Donc maintenant, il faut mener une bataille culturelle et politique pour pouvoir, oui, alimenter, montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'il n'y a même que des solutions, en fait. C'est ça qui est terrible. Il n'y a que des solutions à la transition écologique et sociale. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, il va falloir avancer pour pouvoir le mettre en place.
Cette émission est terminée. Merci à vous deux, Aurore Laluc, Jezabel Coupet-Soubéran, d'avoir accepté notre invitation. Les mentions de vos ouvrages que j'ai cités au début de l'émission peuvent être retrouvées sur notre site internet www.rfi.fr. Vous pouvez également nous y réécouter ou podcaster l'émission sur l'application Pure Radio de votre smartphone. La semaine prochaine, c'est Sophie Malibaud qui sera à ce micro. Quant à moi, je vous retrouve à la fin du mois d'août.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.